Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 28 janvier, Le Parisien a publié un dossier édifiant sur la situation des urgences hospitalières en France. Cette enquête a mis en lumière plusieurs cas de mort qui auraient pu être évités aux urgences, notamment celle de Lucas, 25 ans, mort le 1er octobre à l'hôpital d'Hyères dans le Var, des suites d'une septicémie qui n'avait pas été diagnostiquée. Après cette enquête, des soignants et des familles de victimes ont dénoncé dans Le Parisien d'autres drames comparables. Et depuis, l'actualité a été marquée par la découverte du corps d'une patiente de 85 ans à l'hôpital d'Aix-en-Provence dans un conteneur à ordures. Code Source fait le point aujourd'hui sur la situation des urgences en France avec deux journalistes du Parisien, Elsa Marie du service Société pendant 7 ans et Nicolas Béraud qui couvre aujourd'hui ces questions au sein de notre service Futur. Nicolas Béraud, le vendredi 9 février, vous êtes en reportage à Strasbourg pour Le Parisien et vous observez comment l'hôpital de la ville a dû s'agrandir de façon provisoire avec des préfabriqués sur le parking.
Oui, il faut savoir que les urgences de l'hôpital de Strasbourg, comme toutes les urgences des différents hôpitaux de France, sont submergées, ils reçoivent énormément de patients. Et du coup, le souci, c'est qu'il y avait de nombreuses camionnettes de pompiers et de SAMU qui passaient parfois des heures, voire une demi-journée, sur le parking des urgences, parce qu'il n'y avait pas de place dans les bâtiments pour prendre en charge les malades. Du coup, l'hôpital a installé, au moment des fêtes de fin d'année, une unité mobile temporaire sur le parking des urgences. Donc ça ressemble à un grand préfabriqué blanc, dans lequel deux ambulanciers ou deux ambulancières prennent en charge jusqu'à une dizaine de patients 24 heures sur 24. Et comme ça, ces patients qui sont dans un état relativement peu grave peuvent être pris en charge avant d'intégrer le véritable service des urgences qui permet aux camions de pompiers et de SAMU de partir plus vite.
Comment est-ce que les personnels des urgences vivent cette situation de devoir travailler dans un préfabriqué ?
Alors ce sont pour le coup des ambulanciers ou des ambulancières de groupes privés qui ne sont pas liés à l'hôpital, mais ce que disent les urgentistes de l'hôpital, c'est que clairement c'est un pis-aller, c'est une cautère sur une jambe de bois, c'est pas ça qui va régler la situation.
Elsa Marie, vous avez été spécialiste santé pendant 7 ans jusqu'au mois de février, vous avez couvert toute l'épidémie de Covid en faisant des reportages sur le terrain dans les hôpitaux. Pendant cette période, les personnels soignants ont vraiment été en première ligne.
Oui, ils étaient plus d'un million à se battre chaque jour pour sauver des vies à l'hôpital. Si on compte le personnel soignant, les médecins, les infirmiers, les ambulanciers également, qui étaient aussi en première ligne, malgré la peur, le manque de masques. Beaucoup ont d'ailleurs été contaminés et ont continué malgré tout à travailler. Les renforts ont afflué partout et les soignants ont réussi l'impossible, comme monter un centre de vaccination en quelques jours. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'un grand nombre est sorti totalement essoré de ce tsunami.
En réponse à la crise du Covid, entre mai et juillet 2020, le gouvernement a organisé une grande consultation baptisée Ségur de la Santé. Au bout du compte, qu'est-ce que ça a donné ?
Alors ça a donné une avancée inédite. 12 milliards d'euros ont été injectés pour revaloriser le salaire des soignants. Par exemple, les infirmières ont été augmentées de 180 € net par mois. Mais malgré cet investissement colossal et inédit, la crise de l'hôpital qui existait avant l'épidémie est restée intacte et pire, elle s'est enlisée.
Nicolas Béraud, les urgences concentrent beaucoup de difficultés, manque de moyens, manque de personnel. Et en juin 2023, le syndicat SAMU Urgences de France a publié une étude inquiétante sur l'accueil aux urgences.
C'est une étude qui est présentée à un congrès d'urgentistes qui a été menée par des médecins de l'assistance publique hôpitaux de Paris et qui conclut à un risque 50% plus élevé de décéder chez les personnes de plus de 75 ans qui ont passé une nuit sur un brancard aux urgences. Ce qu'ils ont fait, ces médecins, c'est qu'ils ont observé un groupe de patients qui a été pris en charge rapidement aux urgences et un groupe de patients qui est resté une nuit sur un brancard, donc dans des conditions inconfortables. Ils se sont rendus compte que ceux qui passaient sur un brancard risquaient davantage de décéder, mais aussi d'avoir des complications par la suite.
Comment ça peut s'expliquer ?
Quand on passe une nuit sur un brancard, il peut y avoir des retards de prise en charge, on nous donne des médicaments plus tard que prévu, on prend en charge la douleur qu'on a ou le problème de santé qu'on a plus tard, et du coup ça peut entraîner des complications pouvant aller jusqu'à la mort.
Elsa Marie, concrètement, d'où vient le problème ? D'où vient cette crise ?
D'un déséquilibre profond entre l'offre de soins et la demande. D'un côté, il y a beaucoup de soignants qui ont démissionné après le Covid à cause de la fatigue, du manque de reconnaissance. En somme, il y a eu une grave crise de vocation. Et de l'autre, en fait, l'afflux aux urgences ne cesse d'augmenter d'année en année. Le manque de médecins en ville oblige les gens finalement à se tourner aussi vers les urgences, qui est un peu la dernière porte ouverte la nuit. Il faut ajouter à cela le vieillissement de la population, l'explosion des maladies chroniques. Résultat, en 20 ans, le nombre de passages aux urgences a doublé.
Au mois de janvier, vous préparez un dossier, le fait du jour du Parisien sur les urgences, et vous rencontrez, fin janvier, un groupe de 4 soignants de l'hôpital de Versailles, un infirmier et 3 aides-soignantes, anonymes, mais que vous choisissez d'appeler dans votre article Thierry, Diane, Nathalie et Lola. D'abord, est-ce qu'ils ont hésité à vous parler ?
Alors oui et non. D'un côté, ils avaient très peur des représailles. Il a fallu protéger leur anonymat, mais aussi enlever de nombreux détails qui auraient pu permettre de les identifier. Et de l'autre, ils avaient tout tenté avant de médiatiser l'affaire. Ils avaient alerté la direction, alerté les autorités, exercé leur droit de retrait, de grève, et rien n'avait marché. Et donc, parler, c'était vraiment leur dernier espoir pour essayer de faire bouger les choses.
Thierry vous parle notamment de ce couloir, ce long couloir qui traverse les urgences et où des patients sont très souvent placés sur des brancards.
Ce couloir, les soignants l'appellent entre eux la 5e avenue, en référence à New York, parce que c'est un immense corridor où les patients en fait attendent des heures, voire des jours, sur des brancards, faute de lits. Ils me décrivent des scènes chaotiques, en fait, des nuits impossibles où les brancards en fait sont alignés. Et effectivement, les patients n'arrivent pas à dormir. Il faut imaginer qu'il y a tout le temps du passage, de la lumière, un bruit assourdissant, et que les patients en fait sont maltraités et ils en viennent même à s'invectiver entre eux. Des patients malades et âgés sont désorientés et vont même jusqu'à se sauver de l'hôpital. Les soignants sont appelés de toutes parts, ils n'ont même plus le temps de répondre aux mains qui se lèvent dans le couloir, si bien que certains ne vont pas pouvoir aller aux toilettes, et les soignants me disent que finalement les conditions sont pires qu'en prison.
L'une des aides-soignantes, Diane, raconte le jour où elle a trouvé le corps de l'un des patients.
Alors elle me raconte cette scène déchirante, on est en janvier, donc elle est près de la zone de soins où des patients sont installés derrière des rideaux pour plus d'intimité et attendent d'être auscultés. Sauf qu'à un moment, elle ouvre machinalement un rideau et que derrière, elle s'aperçoit qu'il y a un patient qui est mort, qui a été oublié, que personne ne s'en est aperçu. Et à ce moment-là, son collègue Thierry rajoute « il est mort comme un chien ».
Est-ce que Diane, Thierry et leurs 2 collègues croient encore en ce qu'ils font ?
Alors ils nous disent que le soin, c'est leur vocation, mais on les sent à bout, meurtris, désespérés aussi d'exercer dans de telles conditions, et ils reconnaissent qu'ils sont devenus maltraitants malgré eux.
Elsa Marie, pour ce dossier, vous travaillez aussi sur le cas d'un jeune homme de 25 ans, Lucas, qui est mort aux urgences d'hier dans le Var. C'était dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre. Et vous réussissez à convaincre des proches de témoigner. Qui est Lucas ? Est-ce que vous pouvez nous présenter ce jeune homme ?
Alors, c'est un jeune technicien de 25 ans qui habite dans le Var. Sa maman me raconte qu'il vient à ce moment-là de s'installer avec sa petite copine. Sa mère le décrit comme un garçon doux, attentionné et qui ne se plaint jamais.
Le samedi 30 septembre, Lucas est amené aux urgences de l'hôpital d'hier par les pompiers. Il se plaint de douleurs au ventre, à l'abdomen depuis la veille. Que se passe-t-il ? quand il arrive aux urgences.
Alors, il est amené sur un brancard qui est posté dans le couloir. C'est-à-dire, comme beaucoup de patients, finalement, il attend d'être ausculté pendant des heures. Et sa mère n'a pas le droit de venir avec lui. Les accompagnants, en fait, ne sont pas admis aux urgences. Et donc, elle attend de ses nouvelles dehors, devant la porte des urgences.
Et pendant toutes ces heures, Lucas échange avec sa mère par SMS.
Oui, il va échanger de très nombreux SMS avec sa maman, qui le soutient à l'extérieur de l'hôpital. Et il se plaint, il lui dit qu'il souffre énormément et que les médecins ne viennent pas en fait l'aider. Et sa maman, à un moment, lui dit « Mais crie, dis au secours, dis que ça va pas, fais quelque chose, que tu veux voir tes parents dehors. » Mais Lucas, finalement, eh bien, ne parvient pas à attirer l'attention des soignants. Et il lui dit qu'il n'en peut plus, qu'il est à bout et qu'il ne sait plus quoi faire.
Elsa Marie, un autre jeune homme, est à côté de lui pendant tout ce temps et il a accepté de vous raconter ce qu'il a vu.
Oui, il s'appelle Damien, il a exactement le même âge que Lucas, 25 ans, et il est, lui, sur un autre brancard en face de Lucas, parce que ce jour-là, eh bien, il s'est bloqué le dos. Il nous raconte qu'il entend gémir pendant des heures, que des infirmiers passent, qu'il essaye de les appeler, mais que Lucas est tellement affaibli que ben, les infirmiers ne l'entendent pas. À un moment, un médecin se dirige vers lui et demande à Lucas s'il a fumé du cannabis, ce qui étonne énormément Damien. Il se dit qu'il lui pose cette question sûrement parce qu'il a des dreadlocks. Et en moins de 30 secondes, il va conclure à une indigestion. Damien s'en étonne et dit « Mais ça se voyait, même sans être médecin, que de l'extérieur, c'était beaucoup plus grave. »
Vers 21h30, Lucas, qui était assis sur son brancard, s'effondre.
Oui, il perd connaissance, sauf que deux infirmiers passent devant lui sans le regarder. À ce moment-là, Damien, qui voit la scène, voit un troisième infirmier passer et lui dit « Excusez-moi, vous voyez pas, il fait un malaise là ». Et à partir de là, c'est le début de la fin. La tension en fait, de Lucas est trop basse, il est à 5-3 et effectivement, il va tomber rapidement dans le coma et décéder.
Que disent les proches de Lucas aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils dénoncent?
Les parents dénoncent la passivité des soignants et d'avoir condamné leur fils à mort, disent-ils. Au moment où les soignants tentent de le réanimer, les parents sont autorisés à rentrer dans les urgences et le père hurle « Vous avez tué mon fils ».
Vous avez donc parlé longuement avec la mère de Lucas. Quel est son sentiment aujourd'hui?
Eh bien, elle dénonce la passivité des soignants, que Lucas en fait avait une infection qui aurait pu être guérie par de simples antibiotiques et que ça n'a pas été fait. Et elle dit aujourd'hui que finalement l'hôpital a tué son fils.
Et les parents de Lucas ont porté plainte contre l'hôpital d'hier pour homicide involontaire. Elsa Marie, vous publiez ce dossier dans Le Parisien le 29 janvier avec tous les témoignages que vous venez de nous rapporter. Et cette enquête entraîne beaucoup de réactions.
Oui, notamment des médecins, et on aurait pu penser qu'ils s'insurgent contre de telles révélations en disant « mais non, il n'y a pas de mort aux urgences ». Et étonnamment, certains vont aussi prendre la parole pour dire qu'eux aussi découvrent des morts aux urgences. Donc c'est quand même une sorte de déflagration. Je vais recevoir beaucoup de messages aussi de soignants qui vont me dire qu'ils sont finalement soulagés et satisfaits que de telles révélations sortent dans la presse. Il va aussi y avoir beaucoup d'anonymes qui vont prendre la parole sur les réseaux sociaux, ce qui va entraîner une vague de commentaires et de réactions. Et chacun va raconter son histoire en disant « moi, ma mère a été prise en charge de telle façon dans cet hôpital, ça a été catastrophique ». Et donc finalement, il va y avoir une sorte de libération de la parole.
Pour qu'on comprenne bien, le fait qu'il y ait des morts parfois aux urgences, ce n'est pas une nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est qu'on en parle comme ça sur la place publique.
Oui, évidemment, c'est pas étonnant qu'il y ait des morts aux urgences, au sens où effectivement, on arrive en urgence et parfois en urgence vitale. Mais ce qui est plus étonnant et ce qui est surtout dramatique et intolérable, c'est qu'il y a des gens qu'on oublie et donc il y a une perte de chance parce qu'on aurait pu les sauver. Mais il y a tellement de monde qu'on ne peut pas s'occuper d'eux et donc ils vont décéder par défaut de soins.
Vous écrivez un article pour relayer une partie de ces réactions. Plusieurs médecins utilisent des mots très forts pour décrire leur ras-le-bol.
Oui, je me souviens notamment d'un chef d'un grand hôpital parisien qui me dit « Oui, on découvre des morts aux urgences ». Et parfois, on essaie de mettre la poussière sous le tapis. On évite de déclarer cette mort qui n'aurait pas dû avoir lieu. Parce que si on déclare, c'est le chef de service qui saute.
J'imagine que vous lui dites que ça vous surprend beaucoup ce qu'il dit.
Oui, surtout que la veille, je l'avais eu au téléphone et il m'avait dit non, on ne peut pas dire qu'il y a trop de morts aux urgences. Et une fois que le dossier sort, il va me dire oui, qu'est-ce que vous croyez? Il y a des morts, effectivement, qui ne devraient pas avoir lieu. Et puis, on ne le dit pas.
Elsa Marie, suite à ces nouveaux témoignages de lecteurs, le 2 février, vous écrivez dans Le Parisien l'histoire d'une femme qui a perdu sa sœur jumelle le 6 septembre 2022, faute de soins. Cette femme qui vous parle s'appelle Thérèse, elle est irlandaise, elle a 63 ans. Avec sa sœur, elles vivaient toutes les deux en France depuis plus de 40 ans. Racontez-nous ce qu'a vécu Thérèse.
Alors Thérèse, en fait, nous raconte que sa sœur jumelle française se plaint le 4 septembre de grosses douleurs. Elle tremble, elle a beaucoup de fièvre, son cœur bat anormalement. Et en fait, quelques jours plus tôt, eh bien française, elle s'est fait mordre malencontreusement par son chien à la main quand elle était en train d'arroser en fait son jardin. Son état de santé va vite se dégrader, elle va être donc évacuée aux urgences, mais elle va eh bien attendre des heures sur un brancard dans le couloir. Elle écrit aussi à sa sœur qui est restée sur le parking en lui disant « J'essaye d'attirer l'attention des infirmières qui sont à côté de moi et rigolent et se racontent leur week-end, mais je n'y arrive pas. » Et Frances va essayer de forcer la porte, de rentrer dans l'hôpital pour venir en aide à sa sœur, sauf que la sécurité bien la met dehors. Et après des heures d'attente, Frances va même être renvoyée chez elle.
Tout ça, c'était à l'hôpital de Cannes. Thérèse s'occupe ensuite de sa sœur à la maison. Son corps est brûlant, flasque, elle a les dents serrées, les lèvres sèches. Frances est conduite en ambulance dans un autre hôpital.
Cette fois-ci à Grasse, puisque sa sœur Thérèse ne veut plus qu'elle mette les pieds à Cannes. Sauf que tout recommence. L'attente, les supplications, les demandes de Thérèse, s'il vous plaît, donnez des antibiotiques à ma sœur, elle a une infection. Elle demande à une interne de venir discuter avec elle dehors. Elle lui dit, s'il vous plaît, donnez des antibiotiques à ma sœur. Et l'interne répond, c'est moi la médecin, c'est moi qui décide. Thérèse, depuis le début, elle sent que sa sœur va mourir. Elle sent qu'elle est en grave danger. Et finalement, c'est ce qui va arriver. Frances va être retrouvée inanimée derrière la porte de sa chambre d'hôpital.
Et comme la famille de Lucas, Thérèse compte aujourd'hui porter plainte contre les deux hôpitaux. Nicolas Béraud, vous, le 29 février, vous écrivez sur le cas d'une femme de 85 ans, une femme prénommée Joëlle, qui a disparu des urgences de l'hôpital d'Aix-en-Provence le vendredi 23 février. Victime d'une maladie neurodégénérative, elle avait été admise aux urgences après une crise d'hallucination.
Exactement, on voit ça passer en fait via un message de sa petite fille sur Facebook qui dit que sa grand-mère a disparu à l'hôpital. Ce qui s'est passé, c'est que Joël, donc 85 ans, a fait une crise de démence, d'hallucination. Joël est prise en charge dans un box aux urgences. À ce moment-là, sa fille rentre chez elle pensant qu'elle est prise en charge et les médecins lui disent voilà, on s'en occupe, vous pouvez rentrer chez vous, on vous tient au courant. À peu près une demi-heure après être rentrée chez elle, la fille de Joël reçoit un coup de fil et c'est l'hôpital qui lui dit que sa maman a disparu, elle s'est échappée de son box aux urgences et personne ne sait où est-ce qu'elle est.
Donc sa fille, Claudine, commence à faire des recherches en ville et à l'hôpital.
Claudine part avec sa fille aînée à l'hôpital et aux urgences d'Aix. Elles sont affolées, elles ne comprennent pas ce qui se passe. Elles demandent à voir les vidéos de surveillance, mais on leur répond que les bandes ne sont pas accessibles ce soir-là. Du coup, elles commencent à fouiller aux alentours de l'hôpital. Elles vont même dans la ville d'Aix-en-Provence. Alors, il faut savoir qu'il fait nuit. Même si on est dans le sud, on est en hiver. Donc, il fait quasiment 0 degré, il fait froid. Donc, elles commencent à paniquer. Elles se demandent si Joël va réussir à tenir, vu son état de santé et vu les conditions. Et surtout, on ne sait absolument pas où est-ce qu'elle est.
Le lendemain matin, le samedi, avec d'autres proches, Claudine revient chercher sa mère un peu partout dans l'hôpital.
Et là, à nouveau, elles font des fouilles, elles passent partout dans l'hôpital. Elles sont aussi aidées dans ces fouilles, évidemment, par les équipes de l'hôpital, les équipes de sécurité, mais aussi les soignants. Toujours aucune trace de Joël. Elles vont prévenir la gendarmerie pour les alerter de cette disparition inquiétante. Mais il se trouve que 24 heures plus tard, on ne sait toujours pas où se trouve cette personne.
Et finalement, le corps de Joël est retrouvé le lendemain.
Elle est retrouvée morte, inanimée, dans un conteneur à ordures. D'après les images de vidéosurveillance, elle n'a pas été frappée ni violentée. Elle serait entrée seule dans ce conteneur avant que le couvercle ne se referme sur elle. Et l'autopsie conclura à une pneumonie qui a sans doute entraîné son décès. Après, est-ce qu'elle a eu très froid? Est-ce qu'elle a eu très soif, très faim? On ne sait pas précisément. D'autres analyses sont en cours.
Comment le centre hospitalier d'Aix-en-Provence explique ce drame?
Alors déjà, évidemment, le centre hospitalier présente ses excuses à la famille. Ils disent qu'ils ont fait tout leur possible lors des recherches pour retrouver Joël rapidement, ce qui n'a pas pu être fait. Et surtout, ils indiquent que ce soir-là, donc le vendredi soir, il y a eu un afflux de patients, et notamment 4 malades dans un état grave, qui ont nécessité au même moment une forte attention du personnel, et que c'est à ce moment-là que Joël, pour des raisons qui restent encore à éclaircir, a pu échapper à la surveillance des urgentistes et des soignants de l'unité d'urgence et s'échapper vers le sous-sol. Et c'est là où nous, journalistes, on fait le lien effectivement avec la crise des urgences, la crise de l'hôpital, les difficultés avec le manque de personnel, le manque de lits et l'afflux de malades, et puis ce qui est arrivé malheureusement à cette personne âgée qui est décédée.
Comment réagit la famille suite à ça ?
Alors pour l'instant, elle voulait prendre un petit peu le temps de faire son deuil, d'organiser les obsèques. Maintenant qu'on a retrouvé le corps de Joël et qu'une autopsie a pu être réalisée, elle envisage de porter plainte contre l'établissement.
Elsa Marie, on a entendu tout à l'heure les mots très durs d'un médecin qui avait réagi dans Le Parisien à votre première enquête. Est-ce que le ministère de la Santé, est-ce que le gouvernement ont fait de nouvelles annonces pour essayer d'améliorer la situation aux urgences ?
Alors la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, a annoncé qu'une enquête était lancée auprès de l'IGAS, qui est l'Inspection Générale des Affaires Sociales, concernant la mort de Lucas. Elle a aussi annoncé que le système du 15, qui est l'appel aux urgences, allait être renforcé. Mais finalement, un petit peu comme toujours durant ces dernières années, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est ça qui est le plus étonnant et le plus sidérant, c'est que malgré les années, malgré la dégradation du système de soins, on a toujours l'impression que les annonces ne sont jamais à la hauteur de la réalité.
On l'a dit, vous avez été spécialiste santé pendant 7 ans. Est-ce que vous avez perçu une dégradation sur la situation aux urgences et à l'hôpital pendant cette période de 7 ans ?
Oui, elle est énorme. On a vraiment vu la situation se dégrader d'année en année. Déjà avant le Covid, un an avant, les soignants manifestaient dehors pour dénoncer un manque de moyens.
Ils sont à nouveau devant leur bâtiment. Les personnels des urgences de Pau manifestaient cet après-midi. Depuis un mois et demi, ils sont en grève, même s'ils travaillent. Aides-soignants, ambulanciers, infirmiers, médecins, avec le renfort de gilets jaunes et d'usagers, tous réclament plus de moyens pour soigner correctement.
On a des gens qui sont aux urgences, qui sont obligés de les faire pipi dans le couloir. C'est des prises en charge vraiment à la va-vite. Voilà, on respecte plus la pudeur, il y a plus d'intimité même aux urgences.
Pendant le Covid, ils ont tenu malgré tout et c'est vrai qu'ils ont été remarquables. Ils ont mis complètement leur vie de côté pour les autres. Je me souviens qu'ils racontaient que quand ils rentraient chez eux, ils se déshabillaient sur le pas de la porte, ils approchaient pas leurs enfants, ils les voyaient plus, ils oubliaient de manger, de dormir. On s'est dit, il va y avoir une énorme révolution pour le système de soins et je pense qu'ils y ont cru aussi, mais elle n'est jamais arrivée.
Merci à Elsa Marie et Nicolas Béraud. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Barbara Gouy. Réalisation Pierre Chaffanjon. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien, chaque soir de la semaine. Chaque mercredi, il y a aussi maintenant Le Sacre, un nouveau podcast du Parisien consacré à Paris 2024. Les confidences de médaillés d'or olympiques au micro d'Anne-Laure Bonnet. Et puis n'oubliez pas Crime Story, chaque samedi, une grande affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.